Les interviews du SEL, le service d'entraide et de liaison, selfrance.org.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission mensuelle des actualités du SEL. On va jouer à l'intervieweur interviewé puisque Daniel Hillion, qui a l'habitude de mener les interviews en tant qu'intervieweur, sera aujourd'hui l'interviewé. Daniel est directeur des études. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors c'est pas pour rien que tu passes de l'autre côté du micro puisque nous sommes en pleine préparation de la journée du SEL qui aura lieu le 17 mars prochain. Un temps de sensibilisation organisé dans des églises un peu partout en France. À l'occasion de cette journée, nous allons essayer de répondre à une question qui est aussi le thème de cette journée du SEL. Comment Dieu nous aide-t-il à protéger les plus pauvres? Alors j'ai envie de te poser la question, les protéger de quoi?
Oui, alors le SEL a choisi comme déclinaison cette année de sa campagne sur la pratique de la justice de faire le lien entre pratique de la justice et protection des plus pauvres. Quand on parle de protection au SEL, nous pensons à la protection face à différentes formes d'abus et de maltraitance, principalement le genre d'abus ou de maltraitance qui peuvent se produire dans les relations interpersonnelles. Pour vous donner quelques exemples de ce dont il peut être question, bien entendu, la première chose à laquelle nos auditeurs peuvent penser, c'est l'abus sexuel. Mais ce n'est pas la seule forme d'abus. Il y a aussi la maltraitance physique, il y a aussi l'exploitation, le travail des enfants, c'est une forme d'abus. Il y a la maltraitance émotionnelle, parfois l'abus n'a pas besoin de gestes ou de coups, mais avec des paroles ou avec des comportements, on peut se rendre coupable d'abus. Il y a le harcèlement, il y a aussi la négligence qui peut être classée parmi les abus. Donc voilà un petit peu le genre de sujet dont nous voulons parler. Et protéger, c'est à la fois intervenir quand un abus a lieu, mais c'est aussi essayer de faire en sorte que les abus ne se produisent pas.
Et dans la Bible, comment la question de la protection est abordée?
Alors dans la Bible, bien sûr, les choses ne sont pas abordées exactement comme aujourd'hui. Au début du 21e siècle, nous avons des contextes qui sont assez différents des contextes bibliques, aussi une manière de concevoir la législation, les procédures, les codes de conduite, les moyens de protéger qui diffèrent de ce qu'on peut trouver dans la Bible. Mais ce qui est semblable, c'est que nous vivons dans un monde marqué par les abus. C'est que nous vivons dans un monde dangereux, dans un monde qui est parfois effrayant et dans lequel les personnes en situation de pauvreté compte parmi les plus vulnérables. Et ce qui est frappant, c'est que quelqu'un qui se trouverait dans une telle situation de vulnérabilité, qui se trouverait exposé aux abus, réussirait à trouver dans la Bible des mots qui décrivent sa situation. Je pense en particulier au livre des Psaumes, dans lequel vous trouvez des descriptions qui peuvent toujours être très actuelles, pour nous parler des situations de détresse. Il y est question de l'abîme, du gouffre, de l'eau qui submerge et qui vous monte jusqu'à la gorge, de la fange dans laquelle on enfonce, du frémissement, de la terreur que ces réalités provoquent. Le psalmiste va souvent se plaindre de l'attaque d'ennemis qui le harcèlent par leurs paroles, qui le guettent pour lui faire du mal, qui sont violents ou rusés ou qui trahissent. Et tout à coup, on se rend compte que, en apparence, il y a de très gros changements, et pas seulement en apparence, mais quand on va plus profondément, comme disait l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Il y a une dimension poétique, j'allais dire, dans les mots de la Bible, qui permettent de traduire des violences de tout temps.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que le fait que les paroles ne sont pas toujours à prendre de manière ultra-littérale, mais décrivent de manière poétique une réalité, fait qu'elles peuvent s'appliquer à toutes sortes de situations différentes, et que même si on n'a pas vécu exactement la même chose que le psalmiste, ou qu'on vit dans un contexte très différent, tout d'un coup on se dit « Ah, mais c'est exactement les paroles dont j'avais besoin ».
En démarrage d'émission, tu as évoqué ce thème-là, mais le thème de la journée du SEL est posé comme une invitation à pratiquer la justice. Comment on relie bibliquement le fait de protéger les plus pauvres avec la justice, en termes de justice?
La pratique de la justice dans la Bible, et j'insiste sur le mot pratique parce que il me semble que dans la Bible, quand on pense à ce que Dieu attend de nous en termes de justice, c'est d'abord et avant tout que nous pratiquions la justice. Et que l'impératif, c'est pas d'abord établissez la justice, instaurez la justice, mais c'est pratiquer la justice, c'est-à-dire faites ce que Dieu demande dans les comportements les plus ordinaires de la vie quotidienne et en fonction des possibilités qui vous sont offertes. Et c'est sûr que du coup, ça implique que pratiquer la justice, ça prend une forme très différente selon que vous êtes un enfant de 10 ans, une personne souffrant de handicap, un boulanger, un professeur, ou bien alors un député ou un président de la République. Et pratiquer la justice, ça peut prendre toutes sortes de formes différentes, mais c'est très terre-à-terre et c'est très lié à notre vocation et à nos occasions de faire le bien. Et la justice, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est tout simple, c'est ce que Dieu commande de faire et peut-être de manière plus particulière dans nos relations humaines. Par rapport à la protection, je pense que la pratique de la justice, ça commence par s'abstenir d'abus, de s'abstenir de faire du mal. Ou alors peut-être, alors là c'est très embêtant, mais ça commence par arrêter de faire le mal si jamais on le fait. Et on a cet appel dans la Bible, l'appel à la repentance, l'appel pour ceux qui commettent des abus et qui font le mal à cesser de faire le mal. Parfois avec des dénonciations qui sont très fortes pour ceux qui profitent de leur situation de force pour opprimer ceux qui sont plus faibles, et notamment les pauvres. Et il y aurait des exemples à citer des livres des prophètes, mais aussi de Jésus lui-même qui tonne contre les scribes, qui dévore les maisons des veuves tout en faisant pour l'apparence de longues prières.
Alors lorsqu'on s'inscrit à la journée du sel, on reçoit un dossier complet pour découvrir comment la pratique de la justice permet de protéger les plus pauvres. C'est à explorer personnellement ou à vivre en église. Dans ce dossier complet, on trouve un document de réflexion que tu as composé, Daniel, et tu y évoques notamment le fait que Dieu se présente comme le Dieu des pauvres, de ceux qui souffrent. Dans le psaume 9, on lit qu'il est une forteresse pour l'opprimé, et ces qualificatifs de Dieu ne sont pas isolés dans la Bible. On lit qu'il est le défenseur des veuves, père des orphelins, qu'il délivre le malheureux. Alors la question qui vient naturellement dans la foulée de tout ça, c'est si Dieu protège vraiment, alors pourquoi il y a tant d'abus qui se produisent encore aujourd'hui?
Cette question, elle est très difficile. Elle est très difficile parce que, au fond, elle est l'une des formes que prend le problème du mal. Pourquoi le mal, dans un monde qui est la création d'un Dieu à la fois tout-puissant, souverain, bon, amour, et ce problème du mal est un problème qui a été exploré par les théologiens, par les philosophes, avec un certain nombre de réponses, souvent pas très satisfaisantes, et qui nous laisse face à un mystère. Et parfois, il est plus sage de reconnaître qu'il y a un mystère qui nous dépasse que d'essayer d'apporter une solution plus ou moins insatisfaisante et qui va plus ou moins excuser le mal en disant « Ah ben oui, vous comprenez, il fallait bien qu'il y ait ça pour que… » Alors ça devient assez rapidement quelque chose de délicat. Mais ce que je voudrais dire par rapport au thème de la protection de manière plus spécifique, c'est que les textes que vous venez d'évoquer, qui parlent du Dieu qui protège, qui parlent du Dieu qui est le défenseur des veuves, ce sont des textes qui nous disent ce qui caractérise Dieu. Si je peux le dire ainsi, quel genre de Dieu Dieu est? Quelle est sa manière de faire normale, habituelle? Il est le Dieu qui délivre, qui protège, qui agit et qui intervient dans le monde. Mais parfois, il peut arriver que Dieu agisse d'une manière qui nous surprenne, qui est mystérieuse, que nous ne sommes pas capables de sonder. Il paraît que le réformateur protestant Martin Luther soulignait le texte d'Ésaïe 28 qui parle de l'œuvre étrange du Seigneur. Je crois qu'il parlait de son œuvre de la main gauche. Alors c'est une expression de droitier probablement, mais c'est une manière de dire que parfois Dieu agit d'une façon qui nous dépasse et qui ne ressemble pas à ce que on pourrait se dire qu'on peut attendre de lui étant donné ce qui est décrit dans la Bible. Et les fidèles de la Bible, ils reconnaissent le problème et du coup, comme ils savent que Dieu est le Dieu qui protège, ils viennent devant Dieu en disant « Mais qu'est-ce qui se passe là? Et combien de temps ça va durer ?» La réponse de la Bible, c'est pas « Je vais vous expliquer pourquoi », mais c'est plutôt « Il viendra un temps où Dieu réagira de nouveau selon ce qui le caractérise ». Et la situation de douleur, de souffrance, d'abus, de mal, de scandale actuel n'est pas le dernier mot de l'histoire. Et un jour, on verra que Dieu n'a pas été pris en défaut dans sa justice et sa bonté, même si aujourd'hui, c'est la nuit qui appelle notre foi.
Tu as évoqué les attentes de Dieu à notre égard quand on commet soi-même des abus, c'est-à-dire arrêter. Il y a une issue positive pour la personne qui commettait des abus dans la Bible?
Je pense que dans la Bible, on a parfois des textes de dénonciation des abus, ou en tout cas de dénonciation des injustices, pour lesquels on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir, qu'il y a un changement. Mais quand même, la plupart du temps, quand la Bible dénonce le mal, c'est pour indiquer une porte de sortie, c'est pour appeler à changer de comportement. Le mot qu'on utilise dans la Bible et dans la tradition chrétienne, c'est pour appeler à se repentir, c'est-à-dire à la fois à reconnaître le mal qu'on a fait et à lui tourner le dos. Dieu offre un avenir à celui qui se repent à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu offre le pardon même à ceux qui se rendent coupables d'abus. C'est quelque chose qui peut être difficile à entendre aujourd'hui. Notre société a tendance à les classer parmi les fautes impardonnables. On divise l'humanité entre ceux qui sont les victimes et ceux qui sont les bourreaux. Et les bourreaux, on se demande s'il peut y avoir un espoir pour eux. La Bible offre le pardon à celui qui se repent. Ce que je veux préciser, c'est qu'offrir le pardon, et un vrai pardon, ça ne veut pas forcément dire qu'on retourne à la situation antérieure à la faute. Parfois, même pour celui qui se repent et qui pardonne, il faut assumer sa faute en payant les conséquences pénales même de son acte. Hein. Certains types d'abus méritent une sanction devant les tribunaux. Parfois aussi, ça veut dire qu'on ne pourra plus exercer tel ou tel type de responsabilité. Il y a quelqu'un qui a abusé d'enfants. Même s'il se repent, même s'il est pardonné, même si on dit, voilà, devant Dieu, ton casier judiciaire est vierge, il ne faut peut-être pas lui reconfier des enfants, parce que ça veut dire qu'il est vulnérable devant la tentation, et ce ne serait pas juste à l'égard des enfants de les mettre en danger. Donc, vous voyez, il y a une place pour le pardon, une vraie place pour un vrai pardon, mais il ne faut pas l'entendre de manière naïve non plus.
Merci beaucoup, Daniel. Alors, évidemment, on aurait pu en discuter encore longtemps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve dans le kit, avec tout un dossier, avec prédication, plan de culte, réflexion biblique et bien d'autres choses, des vidéos aussi. On retrouve toutes ces ressources sur notre site internet, selfrance.org. En s'inscrivant à la journée du sel. Merci beaucoup et puis on se retrouve le mois prochain pour les actualités du sel.